Ben-Hur, chapitre 24, la lettre de Messala interceptée. Le lendemain, à la troisième heure, comme Hilderim, qui s'était rendu à Antioche, mettait pied à terre devant sa tente, un homme qu'il reconnut pour être un des membres de sa tribu s'approcha de lui et lui dit « L'on m'a donné au chèque de te remettre ceci, en te priant de le lire immédiatement. S'il y a une réponse, j'attendrai ton bon plaisir. » Hilderim concentra aussitôt son attention sur le pli que l'arabe lui tendait. Le cachet en était brisé. L'adresse portait le nom de Valère Gratien à Césarée. « Cabadon l'emporte !» grommela le cheik en découvrant que la lettre était écrite en latin. Si elle avait été écrite en grec ou en arabe, il aurait pu la lire, tandis que la seule chose qu'il put déchiffrer, ce fut la signature de Messala, tracée en gros caractères romains. Ses yeux brillèrent, il s'écria « Où est le jeune juif ?»« Dehors, avec les chevaux, » répondit un serviteur. Le cheik replaça le papyrus dans son enveloppe qu'il glissa dans sa ceinture, après quoi il se remit en selle. À ce moment, un étranger arrivant selon toute apparence de la ville parut devant lui. « Je cherche le cheik Hilderim, surnommé le Généreux, » dit-il en s'avançant. Son langage et son costume étaient ceux d'un Romain. Si le vieil arabe ne savait pas lire le latin, il le parlait, et il répondit avec dignité « Je suis le cheik Hilderim. » Les paupières du Romain se levèrent et s'abaissèrent rapidement. « J'ai appris que tu avais besoin d'un entraîneur, » dit-il avec un parfait sang-froid. « Va ton chemin !» s'écria Hilderim d'un air dédaigneux. « J'en ai trouvé un !» Il rassemblait les rênes de son cheval et allait s'éloigner, quand le Romain, qui ne semblait pas disposé à partir, lui adressa de nouveau la parole. « Cheik, je suis un grand amateur de chevaux, et l'on dit que les tiens sont les plus beaux de tout l'univers. » Il avait touché le point faible du vieillard, qui s'arrêta à ses paroles flatteuses. Il répondit cependant « Je te les montrerai un autre jour. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Il se mit en route pour rejoindre Ben-Hur, tandis que l'étranger s'en retournait à la ville, le sourire aux lèvres. Il avait accompli sa mission. Dès lors, chaque matin, jusqu'au grand jour des courses, un individu, parfois même deux ou trois, se présentèrent devant le cheik sous prétexte de chercher de l'emploi comme entraîneur. C'est ainsi que Messala surveillait Ben-Hur. Le cheik eut bientôt atteint le champ où celui-ci faisait exercer ses chevaux, et il assista avec une satisfaction évidente à leurs évolutions. Il remarquait surtout avec un vif plaisir l'ensemble parfait de leurs mouvements et l'égalité de leur allure lorsque le conducteur les amenait à donner toute leur vitesse. « Cet après-midi, ô cheik, je te rendrai Sirius, » dit Ben-Hur en caressant le cou du vieux cheval. « Je te le rendrai et prendrai le char à sa place. »« Déjà ?» s'écria Hilderim. « Avec des chevaux comme les tiens, bon cheik, on obtient en un jour des résultats surprenants. » « Ils n'ont pas peur de moi, ils ont l'intelligence d'un homme et ils aiment l'exercice. Celui-ci, il secouait les rênes du plus jeune des quatre étalons, Aldébaran, je crois, est le plus rapide. Seul, il dépasserait au premier tour tous ses camarades de deux fois sa longueur. » Hilderim caressait sa barbe en clignant des yeux. « Aldébaran est le plus rapide, dis-tu. Lequel arriverait le dernier à ton avis ?»« Celui-ci, Ben-Hur désignait Antarès, mais... « Sois tranquille, il ne se laissera pas distancer. Je lui ferai donner chaque jour toute sa vitesse et, au moment voulu, il égalera les trois autres. Je ne crains qu'une chose, cheik. » Le vieillard le regardait d'un air attentif. Dans sa soif de triomphe, un Romain ne saurait garder l'honneur sauf. Ils sont tous les mêmes, crois-moi. Leurs tricheries sont infinies. Dans les courses de chars, leur fourberie s'étend à tout. Du conducteur aux chevaux, des chevaux à leur propriétaire. Aussi, cheik, veille bien sur ce que tu possèdes, et d'ici au jour des courses, ne permets pas qu'un étranger jette un coup d'œil sur tes chevaux. J'irai plus loin, et je te dirai, fais-les garder jour et nuit par des hommes armés. Ce n'est qu'à ce prix que je pourrai me sentir certain du résultat de la lutte. Ce que tu me conseilles sera exécuté, par la splendeur de Dieu. Je te jure qu'aucune main autre que celle de mes fidèles serviteurs ne les touchera, et que ce soir, je mettrai des gardes à la porte de la tente, » dit Hilderim lorsqu'ils eurent quitté leur monture. « Mais, fils d'Arius, » ajouta-t-il, « vois ce que je viens de recevoir et aide-moi à déchiffrer ce latin. » Il avait pris le pli cacheté dans sa ceinture et le tendit à Ben-Hur.
« Tiens, lis cette lettre à haute voix, en me traduisant son contenu dans la langue de tes pères. Le latin est une abomination. »
Ben-Hur prit la lettre d'un air de bonne humeur, mais après avoir lu la suscription « Messala à Gratien », il s'arrêta et changea de contenance. Tout son sang semblait se précipiter vers son cœur. Son agitation n'échappa pas à Hilderim, qui lui dit «
Continue, je t'écoute ».
Ben-Hur s'excusa, puis il fit un violent effort pour recouvrer son sang-froid et reprit sa lecture. Quand il fut arrivé à ces mots,
« Je mentionne, toujours en procédant par ordre, le fait que tu disposas des différents membres de la famille des Hur. »
Il s'arrêta de nouveau pour reprendre haleine. Il poursuivit cependant, mais la fin de la phrase lui fit tomber la lettre des mains.
« Elles sont mortes, mortes !» se disait-il, « et je suis désormais seul au monde. »
Le cheikh le considérait avec sympathie. Il devinait que le contenu de cette lettre le faisait souffrir.
« Fils Darius, lui dit-il, achève seule ta lecture, et quand tu te sentiras de force à me la communiquer, tu me feras appeler. »
Il se leva et sortit, sans se douter qu'il n'avait jamais accompli une meilleure action. À peine seul, Ben-Hur se jeta sur le divan et donna libre cours à sa douleur. Quand il se fut un peu calmé, il se rappela qu'il n'avait pas vu la fin de la lettre. Il la ramassa donc et reprit sa lecture.
« Je ne résiste pas au désir de te demander si elles sont mortes ou vivantes. »
Ben-Hur tressaillit. Il relut ces paroles plusieurs fois de suite et poussa enfin une exclamation de joie.
« Il n'est pas sûr qu'elles soient mortes. Béni soit le Seigneur. Je puis avoir encore de l'espoir. »
Il termina la phrase et alla bravement jusqu'au bout de la lettre, après quoi il appela le cheikh. « Lorsque j'arrivai à la porte de ta tente hospitalière, au cheikh, commença-t-il avec calme, quand l'arabe eut repris sa place, mon intention n'était pas de te parler de moi, si ce n'est pour t'assurer que j'avais une habitude assez grande de l'entraînement pour que tu puisses me confier tes chevaux et je me refusais à te raconter mon histoire. Mais le hasard qui a fait tomber cette lettre entre tes mains est si étrange que je me sens tenu de te mettre au courant de ce qui me concerne. J'y suis d'autant plus disposé que, d'après le contenu de ces lignes, j'apprends que nous sommes menacés par le même ennemi contre lequel il est nécessaire que nous fassions cause commune. Je vais te lire cette lettre et je t'en fournirai l'explication, après quoi tu ne t'étonneras plus qu'elle m'ait causé tant d'émotions. Si tu m'as jugé faible ou lâche, tu m'excuseras quand tu sauras tout. » Le cheikh écouta Ben-Hur en silence jusqu'au paragraphe qui le concernait.
« Ah !» s'exclama-t-il d'une voix qui exprimait autant de surprise que de colère.
« Chez ce traître de cheikh Hilderim, » répéta Ben-Hur.
« Traître ! Moi !»
cria le vieillard. Ses lèvres se contractaient, les veines de son front se gonflaient. «
Encore un moment d'attention, cheikh, » lui dit Ben-Hur, avec un geste suppliant. « Telle est l'opinion que Messala a de toi. Écoute maintenant la menace. » À Rome, moi, Hilderim, cheikh de 10 000 hommes de cheval, armé de lances, m'envoyer à Rome, moi.
Il bondit sur ses pieds, ses doigts recourbés comme des griffes.
Oh Dieu, non, vous, tous les dieux, à l'exception de ceux de Rome, je vous le demande, quand cette insolence prendra-t-elle fin? Je suis un homme libre, et libre est mon peuple. Faudra-t-il que nous mourions esclaves, ou, ce qui serait pire encore, devrais-je vivre pour ramper comme un chien au pied d'un maître? Devrais-je lécher la main qui me frappera? Ce que je possède ne m'appartiendrait plus. Je devrais être livré corps et bien à un Romain. Que ne suis-je jeune encore une fois? Que ne puis-je secouer de mes épaules 20 ans ou 10 ans? Seulement 5!
Il grinçait des dents et pressait sa tête entre ses mains. Puis tout à coup, il saisit Ben-Hur par l'épaule.
Si j'étais toi, fils de Hur, s'écria-t-il, si je possédais ta jeunesse, ta force, ton adresse, et la moitié seulement des torts que tu as à venger, la moitié des souvenirs qui hantent ta mémoire, je ne pourrais demeurer un moment en repos. À tous mes propres griefs, j'ajouterai ceux du monde entier, et je me vouerai à la vengeance. Je manierai de pays en pays, soulevant les populations sur mon passage. Aucun peuple ne chercherait à s'affranchir de Rome par la guerre, sans me compter au nombre de ses combattants. Je me ferai parte, faute de mieux, et si les hommes m'abandonnaient, Je ne me déclarerai pas vaincu, non. Par la splendeur de Dieu, je me joindrai au troupeau des loups, je ferai des tigres et des lions, mes amis, et je ne désespérerai pas de leur apprendre à dévorer l'ennemi commun. Toutes les armes me seraient bonnes. Je ne demanderai pas de quartier, et je ne m'en accorderai pas davantage, pourvu que mes victimes fussent des Romains. Je prendrai plaisir à les torturer, je les passerai par les armes, et je voudrai aux flammes leurs propriétés. La nuit, je prierai les dieux, les mauvais, aussi bien que les bons, de me prêter le secours des maux les plus terribles. La tempête, la foudre, la chaleur, le froid, tous les poisons sans nom, qui flottent dans les airs, toutes les choses innombrables, qui font mourir les hommes sur terre et sur mer. Je ne dormirai pas un instant, je...
Il s'arrêta hors d'haleine en se tordant les mains. Ce flot de paroles passionnées avait passé sur Ben-Hur en lui laissant l'impression vague qu'il venait d'assister à un accès de rage trop intense pour s'exprimer d'une façon intelligible. Pour la première fois depuis bien des années, quelqu'un l'avait appelé par son nom. Il existait donc un homme qui le connaissait. Cet homme était un arabe du désert. « Bon cheikh, lui dit-il enfin, comment cette lettre est-elle tombée entre tes mains ?»«
Mes gens surveillent les routes aux abords des cités, répondit Hilderim. Ils l'ont enlevé à un courrier qu'ils ont arrêté.
Sait-on que ces gens sont à toi ?
Non, ils passent pour des brigands, et moi je suis censé les poursuivre et les punir. Je t'ai dit ce que je ferais, si j'étais à ta place, continua-t-il, en remettant la feuille de papyrus dans son enveloppe. Et tu ne m'as pas répondu.
Ma réponse, la voici, cheikh. Tout ce que tu ferais si tu étais moi, je l'accomplirai autant que cela sera à mon pouvoir. J'ai fait depuis longtemps de la vengeance le but de ma vie. Chaque heure des 5 années qui viennent de s'écouler a été remplie par cette pensée. Je ne me suis pas accordé aucun répit. Je n'ai connu aucun des plaisirs de mon âge. Les séductions de Rome ne me touchaient pas. Tout ce que je lui demandais, c'était de m'instruire en vue de la revanche. J'eus recours à ses maîtres les plus fameux, non pas, hélas, à ceux de rhétorique et de philosophie. Je n'avais pas de temps pour eux. Et ce qu'il importait d'apprendre, c'était tout ce qui touche aux exercices corporels. Je fis ma société des gladiateurs et de ceux qui remportaient des prix dans le cirque, et ils m'initièrent à leur art. Les maîtres d'escrime qui m'acceptèrent pour élève furent bientôt fiers de moi. Ô cheikh, je suis soldat. Mais avant de pouvoir réaliser mes rêves, il faut que je devienne capitaine. C'est dans ce but que je me suis joint à l'expédition contre les Parthes. Quand je reviendrai de cette campagne, si l'Éternel épargne ma vie et mes forces, le moment sera venu d'agir. Alors, je serai capable de combattre Rome d'après ses propres méthodes et de faire payer à ses enfants les torts qu'elle a eus envers moi et envers mon peuple. L'Arabe le prit dans ses bras et l'embrassa avec passion. « Si ton Dieu ne te favorise pas, fils d'Hur, lui dit-il, c'est qu'il est mort. Quant à moi, je te promets, je te le jurerai même, si tu le désires, que tu peux compter sur mon secours. Tout ce que je possède sera à ton service, mes mains pleines, mes hommes, mes chameaux, mes chevaux et le désert pour te préparer à la lutte. Assez, maintenant, il faut que je me rende à la ville. Tu me reverras ou tu entendras parler de moi avant la nuit. » Là-dessus, le cheikh se détourna brusquement et sortit de la tente. Un instant plus tard, il quittait le douar à cheval. Resté seul, Ben-Hur s'en alla sous les palmiers, réfléchir à ce que la lettre interceptée venait de lui apprendre. Son contenu était certes pour lui d'un intérêt capital. Il avait maintenant des preuves irrécusables de la complicité de Messala dans les malheurs de sa famille. De plus, il était averti du danger qu'il courait. Ses ennemis étaient rusés et puissants. S'ils avaient peur de lui, il n'en avait que plus de raison pour les craindre. Il s'efforçait de se rendre d'avance maître de la situation, mais il n'y parvenait pas. Trop de pensées diverses l'agitaient pour qu'il pût la considérer avec sang-froid. Il éprouvait un bonheur bien naturel à se dire que sa mère et sa sœur vivaient encore, et il ne s'arrêtait pas à la pensée que l'assurance qu'il en avait était après tout bien vague. Il savait qu'il existait un homme qui pourrait le renseigner à leur sujet, et il reprenait espoir, comme s'il eût été tout près d'obtenir enfin ces nouvelles si ardemment désirées. Ce qui dominait en lui, c'était le sentiment très vif et presque superstitieux que Dieu allait le mettre à part pour une œuvre spéciale, et qu'en ce moment même, une seule chose lui était demandée, la patience et la foi. Après le repas du milieu du jour, il se fit amener le char que les 4 chevaux devaient traîner afin de se distraire un peu. Il l'examina attentivement et découvrit avec plaisir qu'il était construit d'après le modèle grec, qu'il préférait à celui en usage à Rome. Il était plus large, plus bas et plus fort, plus lourd aussi, il est vrai, mais la vigueur remarquable des Arabes obvierait sans peine à cet inconvénient. Il alla ensuite chercher les chevaux pour les atteler, puis les conduisit au champ d'entraînement. Lorsqu'il rentra au douar vers le soir, il avait recouvré un peu de calme et pris la résolution de ne rien entreprendre contre Messala avant d'avoir gagné ou perdu la course. Il ne pouvait renoncer au plaisir de rencontrer son ennemi aux yeux de tout l'Orient. La pensée qu'il y aurait d'autres compétiteurs en présence ne l'abordait même pas. Sa confiance dans le résultat final de la lutte était inébranlable. Il ne doutait ni de sa propre habileté, ni des moyens de ses quatre associés, comme volontiers il eût appelé ses superbes Arabes. « Qu'ils viennent se mesurer à nous, » disait-il en les caressant tour à tour. « Qu'en dis-tu, Antarès, et toi, honnête Rigel, n'apprendra-t-il pas à ses dépens ce que nous valons ? Qu'en penses-tu, Aldébaran, toi, le roi des coursiers ? Nous le battrons, Altaïr, nous le battrons, mes braves cœurs. » À la tombée de la nuit, Ben-Hur vint s'asseoir à la porte de la tente pour attendre Hilderim, qui n'était pas encore revenu de la ville. Soit que cela provint de la satisfaction que lui avaient causé les progrès réalisés par les chevaux, ou du bain pris après son travail, ou simplement l'effet de la réaction qui se produit toujours chez un jeune homme après une crise d'abattement, sa disposition d'esprit était des meilleures. Il se sentait entre les mains d'un dieu qui, après l'avoir longtemps éprouvé, allait se montrer favorable à ses desseins. Il entendit le bruit des sabots d'un cheval qui approchait rapidement. Un instant plus tard, Malouk s'arrêtait devant lui. « Fils Darius, s'écria-t-il après avoir échangé les salutations d'usage, je viens de la part du cheikh Hilderim. Il te prie de prendre un cheval et de le rejoindre à la ville. » Ben-Hur se leva sans faire de questions et se dirigea vers l'enclos où paissaient les chevaux. Et bientôt, Malouk et lui galopèrent sur la route d'Antioche. À une petite distance du pont de Séleucis, ils passèrent la rivière sur un bac, puis la traversèrent encore sur un autre et entrèrent enfin dans la ville du côté de l'Occident. Ils avaient fait un long détour, mais Ben-Hur ne s'en plaignait pas. Il comprenait fort bien la raison de tant de précautions. Ils chevauchèrent jusqu'à l'endroit où abordaient les vaisseaux de Simonide, et quand ils furent arrivés devant la porte des entrepôts, Malouk arrêta sa monture. « Nous voilà arrivés, » dit-il. « Descends de ton cheval. » Ben-Hur reconnut aussitôt la maison. « Où est le cheikh ? » demanda-t-il. « Viens avec moi, je te conduirai. » Un homme veillait près de la porte. Il vint prendre leurs chevaux et avant même que Ben-Hur fût revenu de son étonnement, il entendait une voix lui crier « Entre, au nom de Dieu !»